soit à cause des scandales révoltants du logement que je me sois décidé à entrer dans la compétition présidentielle, les amicales pressions que vous exercez sur moi pour que je consacre une émission entière à l'examen des problèmes du logement. Vous comprenez bien qu'une émission de 14 minutes ne permettrait même pas d'effleurer le sujet. Je vous promets, passer les élections, de consacrer à votre information sur la question du logement tout le temps que mérite ce sujet capital. Mes camarades et moi, nous organiserons une tournée de conférences dans les principales villes de France. Nous vous montrerons tout ce qui peut déjà se faire, même en partant de la législation existante, pour peu que l'État et les organismes qui lui sont soumis cessent d'être les premiers brigands de France. Et c'est pour cela que je crois de mon devoir de consacrer tous mes efforts à l'obtention du pouvoir d'intervenir efficacement dans la conduite des affaires de l'État déjà présent. C'est l'immoralité de l'État qui est la cause de l'immoralité publique. C'est l'État et son gouvernement qui obligent tous les Français à mentir, à ruser à longueur de journée s'ils veulent vivre et qui les conduit par là à en perdre tout sens civique. C'est là la racine du mal, c'est d'abord cela qui doit cesser. Il faut en effet cesser de croire que l'art politique impose et justifie l'emploi systématique de moyens immoraux. L'honnêteté politique est le fondement nécessaire de la vraie démocratie. La vraie démocratie ne peut vivre et prospérer que fondée sur la vérité, sur la justice et sur l'amour, ce qui est tout le contraire du gouvernement du prince qui, lui, ne peut vivre et prospérer que sur le mensonge, les injustices bien dosées et la haine. Dans un cas, c'est la référence aux valeurs chrétiennes. Dans l'autre, c'est la référence à Machiavel. Et il faut bien le dire, le général de Gaulle a suivi jusqu'ici Machiavel tout en louchant vers le Christ. À sa décharge, il faut avouer que les Français, et surtout les dirigeants de la masse ouvrière, n'ont rien fait pour le convertir. En particulier, les spécialistes de la main tendue se sont bien gardés de saisir celle que leur offrait le général de Gaulle en 1958. Qui sait ce qui serait sorti d'une telle collaboration? Un homme de génie incontestable et de fort tempérament, attelé à une masse ouvrière et paysanne forte, lucide, sûr de ce qu'elle veut, oui, qui sait ce que cela aurait donné pour la France et pour les Français. Pour moi, homme du peuple, homme de la rue, je me sens sur le cœur, sur la conscience, une gêne énorme. Une part de cette responsabilité collective pèse sur moi. Et j'ai peur. J'ai peur une fois de plus d'être lâche et de n'oser dire tout haut ce que tant de Français, je le sens, pensent tout bas. Nous en avons assez de ces luttes fratricides, de ces règlements de compte entre candidats au pouvoir, dirigeants de partis, luttes auxquelles ni la France ni les Français n'ont rien à gagner. Il me semble que l'heure est venue de sortir de l'ornière où nous a enlisé une libération que la haine a animée et qui, de ce fait, n'a rien libéré d'autre qu'un peu plus de haine, un peu plus d'espoir de revanche. J'ai faim, pour ma part, d'un régime honnête, fraternel, respectueux des personnes, soucieux de fécondité. Il va bien falloir tirer un trait, un jour ou l'autre, sur le passé, remettre tous les compteurs à zéro et offrir à tout Français sa vraie chance, fondée sur sa seule valeur, sur sa seule compétence, sur son seul dévouement au bien commun, sur sa seule générosité. Mais cela exige pour réussir non seulement un élan sentimental, mais des structures politiques, économiques et sociales nouvelles, appropriées à ce but. C'est là le sens de ma présence et de mon effort dans cette compétition présidentielle. Dans les structures que je propose, l'honnêteté devient la suprême habileté. Cette démonstration n'a jamais pu être faite dans le passé, peut-être même certains essais ont-ils échoué, Mais ces échecs venaient de ce que les conditions matérielles n'étaient pas encore réunies. Il n'en est plus de même aujourd'hui, au siècle de l'abondance et de l'électronique. C'est dans cette voie que je propose à mes concitoyens de s'engager. Et c'est cela que j'ai tenté d'expliquer tout au long de cette campagne, avec mon air à moi, mes mots à moi bien sûr, et mes phrases maladroites peut-être. Mais comment parvenir à me faire comprendre d'un peuple que ceux qui devraient être ces courageux informateurs trompent, excitent, aveuglent à longueur de jour? Et je veux ici m'adresser publiquement aux journalistes dont tout le monde a peur. Il y a de bons et il y a de mauvais journalistes. Je n'ai aucun moyen de déterminer quel est le pourcentage de l'une et de l'autre sorte. Je laisse aux professionnels le soin d'en juger. Je suis férocement pour la liberté totale de la presse. Il ne peut y avoir de démocratie sans cela. Mais par contre, j'entends que la presse fasse son devoir et tous son devoir sont difficiles de voir. Or, la presse, en notre temps, ne fait pas son devoir. Comme tout le monde, la presse a peur. Peur de sa clientèle, qu'au lieu de l'éclairer, au lieu de la guider, elle se laisse mener par les passions de ses lecteurs, car, dit-on, il faut bien vivre. La presse a peur des gens au pouvoir, car elle a peur des sanctions discrètes, la perte de la publicité, les difficultés de se procurer du papier, la saisie, sont de tels moyens de pression. Mais quand un journaliste déforme sciemment ou par légèreté les propositions d'un candidat à la présidence de la République, qu'est-il d'autre qu'un authentique criminel de paix? Celui-là même qui ne déforme et n'attaque rien pour la simple raison qu'il tait tout, tout ce qu'il sait être bon, parce qu'il a peur de ses maîtres. Ce journaliste-là aussi est un authentique criminel de paix. La lecture de la presse de ces 8 derniers jours me permet d'affirmer que nombreux sont les criminels de paix dans un corps qui devrait être l'élite morale de la nation, son phare, son guide. J'ai le droit et le devoir de le dire, et j'adjure les journalistes dignes de ce nom et de ce sacerdoce d'avoir le courage eux aussi de tenter de convertir et d'éduquer ceux de leur part qui se conduisent en criminels de paix, quitte à les éliminer s'ils s'obstinent. Car il n'est finalement pas de liberté qui ne se perde, notamment par l'abus qu'on en fait. Par exemple, en ridiculisant un candidat à la présidence de la République, soit en choisissant le cliché grotesque, soit en déformant ses idées, soit en ridiculisant ses propos, ou pis encore, ceux qu'on lui prête. Et que dire du journaliste qui dissimule jusqu'à l'existence du candidat et de ses propos? N'est-ce pas aussi un criminel de paix? Comme un tel discours, s'il n'était assorti d'exemple, permettrait à chacun de ceux auxquels je m'adresse d'imaginer que je parle de son voisin, ce qui est une attitude trop fréquente, je prends mes risques et je cite un exemple concret. Je viens de parcourir à l'instant le Figaro du 30 novembre 1965, numéro 6611, édition de 5 heures. À la rubrique élection présidentielle, je lis tout d'abord, page 6, troisième colonne, un article rédactionnel où l'on me ridiculise avec cette fausse gentillesse que l'on réserve d'ordinaire aux demeurés. Monsieur Barbu, me fait-on dire, voudrait faire vivre ses contemporains dans des phalanstères. Et tout le reste est de la même veine. Pour l'auteur, je suis de toute évidence un tout cinglé sans danger. J'invite publiquement ce journaliste à venir lire son article devant notre Assemblée Générale au jour et à l'heure de son choix. Même s'il devait y perdre une demi-journée de travail, tous mes copains seraient présents et à l'heure, qu'il en soit assuré. Page 7, cinquième colonne du même numéro. Il est rendu compte d'une explication de vote public organisée par le Centre d'information civique hier soir. J'y relève que les champions de M. Marchilassi, de M. Tixier-Vignancourt et de M. Barbu, et je cite, soulevèrent parfois quelques mouvements de protestation ou d'ennui. Je ne sais ce qu'il en a été pour les deux premiers, mais j'ai sous les yeux le compte-rendu in extenso de l'intervention de M. René Hamon, mon représentant, un simple ouvrier tourneur. Ce compte-rendu, grâce à une organisation parfaite, lui a été gracieusement remis à la fin de son intervention par les organisateurs. Son intervention me semble digne de respect, claire, bien fondée, et le compte rendu enregistre qu'il a été coupé à plusieurs reprises par les applaudissements de la salle. De même, la péroraison a été vivement applaudie. Alors, l'auteur de l'article, M. Pierre Thibon, est-il un honnête homme ou un criminel de paix? Peut-il lui aussi venir chercher la réponse à cette question en acceptant de lire son article devant notre Assemblée Générale? À lui aussi, j'en fais publiquement l'offre. Je n'ai pas poussé plus avant ma lecture. Mais j'entends faire savoir ceci. Notre association et moi-même sommes parfaitement connus du journal Le Figaro. C'est même à ce journal que nous faisons allusion lorsque nous exposons que la presse parisienne refuse catégoriquement de révéler les abus de pouvoir massifs et répétés dont nous étions victimes. Deuxièmement, M. Michel Hamelet, journaliste au service économique du Figaro, a tout particulièrement étudié les communautés de travail sur lesquelles il a écrit de très nombreux articles, fort documentés et des plus élogieux de 45 à nos jours. M. Denis Perrier-Daville, rédacteur au service politique du Figaro, connaît fort bien notre groupement et moi-même. En tant que membre du groupe Construire, nous nous sommes souvent rencontrés à propos de projets intéressants, la défense des constructeurs. M. Denis Perrier-Daville m'a tout spécialement assisté et encouragé à l'occasion du jeûne public auquel je m'étais astreint à Noël 57 pour faire échec aux manœuvres dont était victime un groupe de nos foyers constructeurs. C'est du reste M. Perrier-Daville qui m'a accueilli à mon entrée au Conseil constitutionnel le 16 novembre à 23h30 et m'a permis de franchir le barrage de police alors qu'un jeune agent de M. Fray, qui ne me trouvait pas la mine assez présidentielle, m'avait vigoureusement attrapé par les deux épaules et me refusait l'entrée. C'est M. Vinard, rédacteur au service économique, spécialiste du logement, qui est venu enquêter chez nous, sur place, en octobre 64, je dis bien 64, sur les énormes scandales d'Achères et de Saint-Leu-la-Forêt. M. Vinard a reçu une surabondante documentation et, indigné par les évidentes et inadmissibles abus de pouvoir dont nous étions les victimes, il a écrit une série d'articles dont la publication devait commencer en novembre 64. Tous nos foyers reprenaient espoir. M. Vinard, en quelques jours, était devenu une espèce de sauveur. Le jour venu, rien n'est paru, et M. Vinard, effondré, n'a pu que nous communiquer que son comité de rédaction l'avait arrêté net, pas un mot sur les affaires barbues. Qu'est-ce que ce journalisme-là? Qu'est-ce que ce journal-là? Je demande aux lecteurs honnêtes du Figaro, et ils doivent en avoir beaucoup, d'exiger de sérieuses explications de la part des responsables d'un journal qui, tirant à plus de 500 000 exemplaires, peut prétendre toucher au bas mot 1 million d'électeurs français chaque jour. Je demande publiquement au Figaro de réparer honnêtement et courageusement ses fautes envers nous en publiant in extenso notre circulaire électoral dont son ami M. Fray, au nom de la défense des droits sacrés de la personne humaine et de la civilisation chrétienne sans doute, a réussi à empêcher la diffusion dans 30 départements sur 95. Lecteurs honnêtes du Figaro, je vous fais juge. Et j'ose vous demander d'intervenir auprès des dirigeants de votre journal pour que justice nous soit rendue. Il me semble que la défense des valeurs chrétiennes passe par là. Français, Françaises, mes amis, il n'y a pas que le gouvernement qui soit responsable de la perte progressive de nos libertés, songez-y. Et pour faire échec à la conspiration du silence, portez-vous à l'écoute de mes émissions télévision du mercredi 1er décembre à 20h30, du vendredi 3 décembre à 13h, radio 12h30 et vendredi 3 décembre, radio et télévision à 20h30. J'ai encore pas mal de choses à vous dire.